Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois Raphaël Antoven qui publie son premier roman. C'est beau ça, ça s'appelle Le Temps Gagné aux éditions de l'Observatoire. Effectivement, ce sera une course contre la montre, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à lui demander. On y revient dans un instant, mais je vous annonce la suite quand même. Le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page. D'à la recherche du temps perdu de Marcel Proust parmi les livres cultes. Il se tient là, nous visiterons la bibliothèque d'un musicien Thomas. Thomas Dutronc, visite qui commencera par le musée de la guitare, je vous préviens. Nous irons fouiner dans les rayons d'une librairie, comme toujours, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Je ne suis pas très vedette. Et même en ce qui me concerne, la notoriété de quelqu'un me le ferait plutôt baisser dans mon estime. C'est idiot d'ailleurs, parce que c'est certainement pas un critère. C'est comme pour les romans, qu'ils soient méconnus ou célébrissimes, ça ne dit rien de leur qualité. Je vais encore être obligé de citer Oscar Wilde, toujours efficace. Un livre est bien ou mal écrit, c'est tout. Et voilà, tout le reste, l'intrigue, l'identité de l'auteur, le nombre de ventes, les bonnes ou mauvaises critiques, peu importe. C'est avec cette citation dans la tête que j'ai ouvert Le Temps Gagné, le roman de Raphaël Antoven, aux éditions de l'Observatoire. Je savais que le roman était aussi une forme d'autobiographie et donc de la matière à Press People, mais j'ai pas pensé, y a-t-il des infos croustillantes, des ragots de première bourre? Je me suis demandé, est-ce qu'il est bien ou mal écrit? Autrement dit, est-ce que Raphaël Antoven, que j'admire comme essayiste, a réussi à faire de sa vie, de la vie, de la littérature? Alors vous allez me dire, la vie de Raphaël Antoven, on s'en fout, certes. Alors moi non, mais je peux comprendre. Sauf que, par la magie et la grâce du roman, le particulier Raphaël devient universel. Et par sa vie, vous en saurez sans doute plus sur la vôtre ou sur celle des autres, sur la vie du monde, parce que, ouf, c'est un roman très bien écrit et une proposition, une vision du monde. Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Nicolas Carreau. Merci de votre accueil.
Il y a deux exergues dans votre livre. Les deux me plaisent et les deux me sont familières. D'abord, une phrase tirée de Rocky, le film prononcé par Apollo Creed, l'adversaire flamboyant de Rocky. « He's just a man, be more a man than him ».
Oui.
C'est juste un homme, soit plus homme que lui. On va y revenir. Mais ensuite, il y a cet avertissement. Cette histoire est entièrement imaginée puisque je l'ai vécue d'un bout à l'autre. Vous avez inversé la citation de Boris Vian que je cite presque à chaque émission en recevant des romanciers. La phrase en question, c'est « Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire, vous, par « Cette histoire est entièrement imaginée puisque je l'ai vécue d'un bout à l'autre » ?
Eh bien, c'est effectivement le contraire de la proposition de Boris Vian. L'idée de Vian dans l'écume des jours est de montrer que ce qu'on imagine, ce qu'on invente, la fiction en elle-même, parle de nous et qu'on ne peut pas complètement s'éloigner de soi. Ce que je fais, moi, c'est de dire que même quand on est au plus près de soi, même quand on raconte exactement ce qu'on a vécu, en réalité, il y a toujours un intervalle entre ce qu'on est et ce qu'on peut en dire. Et dans cet intervalle se loge l'imagination. Autrement dit, Vian retrouve la réalité au bout de l'imagination. Moi, je retrouve l'imaginaire au bout d'un récit réaliste, entre guillemets.
C'est un roman qui commence brutalement. Les parents du héros sont divorcés.
Commence dans la brutalité.
Voilà. Isidore, le beau-père, tout pédopsychiatre soit-il, frappe le héros du roman, un enfant. Il faut dire que cet enfant, il ne vole pas les gifles. Hein. Il coupe parfois le roquefort dans le sens de la largeur. Il ouvre les portes sans frapper. Et même, il lui arrive, heureusement, pas trop souvent,
de laisser une goutte d'urine sur la lunette des chiottes.
Ouais. Je cite, effectivement. Qu'est-ce qui motive cette brutalité, à votre avis?
Ce qui motive la brutalité, c'est la détestation du beau-père pour le jeune enfant. C'est évident, sauf que le jeune enfant n'a pas du tout les moyens d'interpréter les choses de cette manière-là, d'autant que le type est un grand pervers et qu'il est compétent. Autrement dit, il a les moyens de présenter sa haine ou sa détestation comme l'application de la loi, c'est-à-dire qu'il a les moyens de présenter les gifles qu'il adore donner comme le résultat d'un comportement parfaitement répréhensible et dont la gifle serait la juste sanction. Autrement dit, l'enfant reçoit des gifles et dans le même temps, il est contraint d'incorporer, de se taire. C'est-à-dire de taire en lui le désir de se révolter contre ça, puisque pour y survivre, il a besoin de penser que ses gifles sont méritées. Il a besoin, donc, il est à la fois la victime de quelque chose et également l'auteur des barreaux de la prison au sein de laquelle il va grandir ensuite, qui est une prison faite de culpabilisation. C'est de ta faute. De quoi te plains-tu ? Il fallait pas faire ça comme ça, etc., etc. Je suis vraiment un sale gosse. Bref, toutes ces formules qui permettent de digérer les coups qu'on reçoit en se transformant en être docile.
Oui, mais le paradoxe qui choque un peu... Enfin, surtout, c'est que c'est un pédopsychiatre dans le roman, et donc il a conscience que c'est pas bien de taper un gosse comme ça.
Non, les cordonniers sont mal chaussés, on voit des médecins, on voit des cardiologues qui fument 2 paquets par jour, et il y a des pédopsychiatres qui sont violents avec les enfants. Si vous voulez, il n'y a pas de profession, aucune culture, aucun savoir, aucune intelligence n'empêche quelqu'un d'être un connard s'il est un connard. Le savoir n'a aucune prise là-dessus, la compétence n'a aucune prise sur la méchanceté.
Et puis il y a des petites humiliations bien perverses, comme quand le garçon se vante d'adorer les frères Karamazov, le roman de Dostoïevski. Alors Isidore lui demande le nom des frères, et sauf qu'il ne sait pas puisqu'il ne l'a pas lu, c'est la honte. Et tout le monde rigole, y compris la mère du garçon. C'est un personnage intéressant, la mère.
La mère occupe, au début du livre, la place de la fontaine lumineuse, c'est-à-dire celle qui prend la forme du récipient qui la contient. Et en la circonstance, la mère adopte la totalité des manies, des manières de l'homme qui, par ailleurs, est violent avec son fils.
Est-ce que vous avez aimé écrire, non pas un essai donc, mais un roman, un vrai, de la littérature? Je vous demande ça parce que parfois j'ai senti que vous aimiez ça, et ce sont peut-être les meilleurs passages selon moi, comme quand le héros adolescent est en Espagne, il doit partir sous le cagnard chercher une bouteille de ketchup à vélo, et là on a le droit à une magnifique description de la chaleur, du soleil qui tape sur les pierres et sur le dos du narrateur. La situation du héros est très intéressante, mais c'est l'atmosphère ici, le personnage principal. C'est un travail d'écrivain, ça. Vous avez
tout ça. J'ai adoré écrire tout ça, et j'ai découvert que j'avais la possibilité, les moyens de raconter les histoires, et en les racontant, d'en dissoudre la douleur pour les proposer à d'autres cœurs que les miens. J'ai adoré faire ça. Je n'ai jamais autant aimé écrire. J'avais écrit 20 livres avant celui-là, et d'une certaine manière, celui-là est le premier. Je n'avais jamais autant aimé écrire, je ne m'étais jamais autant livré à l'écriture et dans l'écriture qu'avec ce livre. Tout simplement parce que, encore une fois...
On dirait que vous parlez d'un grand amour.
C'est une forme d'amour, c'est une forme de passion. C'est-à-dire que c'est quand même un moment de la vie où on ne peut pas faire autre chose. Quand on est saisi par un tel sujet et quand les mots vous viennent si facilement pour décrire ce que vous avez vécu, c'est très difficile de... Enfin, je ne connais peu d'émotions comparables, oui.
Alors cette scène justement sous le cagnard, il est en train de cramer au soleil, mais vraiment cramer, c'est-à-dire qu'il sent que ça va être une brûlure atroce, etc. Il rentre chez lui à vélo, c'est très très dur, et puis il s'énerve, et là... Tout à coup, il chope un oiseau sur un muret, il lui fracasse le crâne, sans qu'il y ait plus d'explications que ça.
Bah non,
il y a une violence terrible, ce gamin.
Il n'y a pas plus d'explications que cela. La violence que l'enfant porte en lui et que l'homme porte en lui est une violence que l'homme connaît ou dont il est familier, lui vient précisément de l'enfance. Le gamin est à vélo, sous la canicule, sa mère l'a envoyé chercher une bouteille de ketchup, elle a surtout besoin d'être un peu tranquille. Il s'en va, il fait chaud, il est brûlé quasiment au troisième degré, il est malheureux, et la bouteille, qui est une bouteille en verre, lui creuse le tibia à chaque coup de pédale. Donc c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et fumant, brisé, furax, désespéré, il arrive à quelques mètres de la maison et là, il voit un oiseau. Et comme il se représentait la bouteille qui lui cassait le tibia comme un pivert dans son esprit, l'oiseau lui semble le frère du pivert et il considère d'une certaine manière qu'il va payer pour son frère. Et c'est ainsi qu'il massacre l'oiseau et qu'il rentre vaguement soulagé par ça. Mais l'enfant est tellement transparent, tellement fantomatique, on peut tellement l'exposer à n'importe quoi, on fait si peu attention à lui qu'il a beau arriver chez lui avec un cadavre d'oiseau, un grand oiseau en plus, dans la main.
Qu'il laisse sur un plat de pâtes.
Qu'il laisse sur un plat de pâtes, sa mère continue de ne pas le voir.
Terrible. On ne va pas faire tout le livre, évidemment, il faut le lire de toute façon, c'est magnifique. Mais j'ai choisi comme ça quand même quelques passages qui m'ont plus marqué que les autres, peut-être. Ou en tout cas qui révèlent quelque chose. Il y a la scène du mariage qui est incroyable. Le héros est plutôt jeune. Hein,
Il est à
son mariage, donc, mais on se demande si c'est vraiment son mariage.
Son mariage n'est pas le sien.
Parce que, je cite, « J'étais le spectateur qu'un miroir choisit de balader dans la planète où les locataires de l'Olympe s'étaient donné rendez-vous. J'étais le fantôme de ma teuf en visite au musée des visages familiers, je voyais sans être vu, je reconnaissais sans être reconnu.
Oui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que le narrateur se retrouve à son propre mariage en situation de parfaite inconnue. Personne ne sait qui c'est, personne ne sait le ghetto du Gotha, ou le Gotha du ghetto, enfin, c'est vraiment la crème de la crème, le tout Paris, le Paris conscient de lui-même est là. Se trouve là. Et lui, il regarde ça, il est comme au cirque, et en réalité, c'est son mariage. Mais personne ne sait que c'est lui le marié, et lui-même reconnaît des gens à qui il n'ose pas parler. Et donc, le voilà en situation de fantôme, fantôme de sa teuf, ce qui est une position formidable. Parce que c'est une position où vous êtes à la fois central, et dans le même temps, vous ne vous interposez jamais entre votre regard et vous-même. Il n'y a aucun préjugé, et vous regardez tout ça comme un spectacle. Donc, il était au spectacle chez lui.
Restez dans cette position, Raphaël, dans un instant. On enfile les gants et pas les gants blancs ni les gants de soie. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Caro.
De retour dans La voix est libre, toujours avec Raphaël Antoven qui publie Le temps gagné aux éditions de l'Observatoire et avec Rocky Balboa aussi.
Apollo ? Oui. Je suis passé chez toi, j'ai attendu et ta femme m'a dit que t'étais peut-être ici.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Écoute, mec. Le soir où tu m'as battu, j'en ai chié, je te jure, tu peux pas savoir, je voulais plus entendre parler de personne, même pas de mes gosses. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie. D'accord, je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé, t'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. L'œil du tigre, mec.
J'ai des frissons, là. L'œil du tigre, mec. Un extrait de Rocky, donc Sylvester Stallone. Il en est question dans ce livre parce que Rocky vous aide à vivre, Raphaël Antoven. En tout cas, il aide à vivre le héros.
Ah bah, sans Rocky, le gamin serait mort, en fait. C'est de toutes les armes qu'il se donne, c'est la plus forte, c'est la plus constante. C'est le grand frère qu'il n'a pas. C'est le boxeur plus faible que les autres, comme lui-même est plus faible que les adversaires qu'il a. Mais c'est celui qui l'emporte toujours. Pour une raison très simple, c'est que les coups qu'il reçoit le renforcent. La particularité de Rocky, c'est qu'il est en vibranium. Plus on lui tape dessus, plus il revient. C'est pour ça que Duke dit à Apollo Creed « Ne fais pas de revanche contre lui, je t'ai jamais vu en mettre autant dans le buffet à quelqu'un. » Et il revenait obstinément « C'est un client à emmerde. » Effectivement, Rocky est un client à emmerde, il ne sait pas perdre, même face à un adversaire plus fort que lui. Et ce talent-là est une vertu absolument nourricière pour un enfant de 7, 8, 9 ans qui est confronté à quelqu'un de 1000 fois plus fort que lui. Et c'est ainsi que sous le gouvernement de ce héros, le narrateur lui-même adopte une perception héroïque de sa propre existence et se met à faire des pompes. En somme, il apprend à sortir de l'enfance grâce à ce grand frère qui le tire par le haut.
Et sous une avalanche de coups, de poings, oui, du beau-père, justement, un soir, il a recours à Rocky, il dit « T'as pas mal, j'ai pas mal !»
Eh bien, c'est dans Rocky IV, quand Rocky se bat contre Drago, Apollo crie des morts, évidemment, et Duke, qui était l'entraîneur d'Apollo, a un truc avec Rocky, ils ont un code entre eux, c'est « No pain », pas de douleur, ce qu'on traduit en français par « T'as pas mal !» à quoi Rocky répond « J'ai pas mal !» Et l'enfant,
le visage en sang.
Hein. Voilà, il a le visage en sang, évidemment. L'autre est très puissant, beaucoup plus fort que lui, etc. Mais il va gagner quand même parce qu'il a pas mal. Et l'enfant qui prend une raclée de son beau-père parce qu'il lui a dit des mots horribles, etc., etc. Mais enfin, bon, c'est comme ça. L'enfant qui prend une raclée de son beau-père, à ce moment-là, il est en position de boxeur et il est lui-même penché sur lui-même à se dire « t'as pas mal, j'ai pas mal ». Et à l'instant où il se dit ça, il est invincible.
J'ai cité Rocky parce que c'est mon préféré, mais j'aurais pu diffuser un extrait de Cat Size, ouais, ou de K2000 ou des Chevaliers
c'est
du
les
Zodiac.
Années 80, on se refait pas.
Hein, oui, ouais. ça n'a rien à voir, mais c'est la place que vous donnez à ce qu'on appelle parfois la pop culture. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, je me rappelle de certaines de vos émissions de philosophie où cette culture-là avait toute sa place dans une émission... Au niveau,
c'est une
on
culture
la laisse
que
trop
les...
de côté,
bah, c'est une
on
culture que
trop.
Les snobs méprisent ça, parce que les gens évaluent la qualité de quelque chose à la noblesse de son sujet. La pop culture manipule des catégories fondamentales de la pensée avec une ingénuité qui est un bonheur pour le pédagogue. Oubliez ça, c'est passer à côté de la vie. En particulier les chevaliers du Zodiac, par exemple. Quiconque fait cours sur le courage, un prof de philo, peut se servir de Jankélévitch, d'Anna Arendt, la crise de la culture, très important, mais aussi des chevaliers du Zodiac, ça marche. marche. Quiconque parle de Descartes peut se servir de Matrix avantageusement. On oublie ça, on le néglige, on le méconnaît, parce que, encore une fois, on croit que les choses sont nobles quand leur sujet est noble. Ce qui est un truc de snob.
Alors, il y a parfois des coups un peu rudes contre votre père, notamment. Mmh. Et d'ailleurs, il s'en est ému publiquement. Il est fâché. Mais au fond, c'est bizarre. J'étais très étonné quand j'ai vu sa réaction dans les journaux et tout ça. Parce que moi, quand je l'ai lu et que je l'ai fini, je me suis dit, mais ce bouquin, en fait, c'est d'abord une déclaration d'amour à ce père, au père du héros. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça.
Oui, bien sûr. Mais certaines personnes, vous savez, ne souhaitent pas qu'on les aime pour ce qu'elles sont. Certaines personnes veulent absolument être aimées pour l'image qu'elles renvoient d'elles-mêmes. Et quand vous êtes aragonien, c'est mon cas, c'est-à-dire quand vous considérez que celui qui n'a jamais été déçu ne sait rien du véritable amour, vous vous évertuez à regarder les gens, même les dieux de votre enfance, c'est-à-dire vos parents, pour ce qu'ils sont, dans leur humanité, dans leur splendeur et dans leur misère. Il y a des gens à qui, aux yeux de qui une telle démarche est impardonnable, inqualifiable. D'autres savent y voir une déclaration d'amour. C'est toute la différence entre mon père et ma mère, d'ailleurs.
Il y en a un qui en prend pas mal dans la gueule aussi, c'est vous. C'est-à-dire que
vous
lancez des coups contre vous-même. Alors, c'est pas non plus vous flagellez pas, hein, mais, parce qu'il y a des belles choses. Mais vous êtes présenté souvent comme un lâche, comme un infidèle éventuellement.
Je suis pas là. J'ai pas écrit ce livre pour me donner bonne image, pour me dorer la gueule, pour améliorer les choses, si vous voulez, ou embellir l'image publique. J'ai écrit ce livre pour détruire.
Vous auriez pu retenir un peu la plume.
Pas du tout. Surtout pas. Quand on écrit, on s'empêche pas. J'ai écrit pour détruire mon image. Complètement, entre autres. C'est une des vertus du livre. J'ai écrit pour détruire mon image, ou en tout cas pour la malmener, pour la blesser, pour la faire saigner. J'ai écrit contre mon image aussi, c'est-à-dire l'enjeu n'était pas pour moi d'entrer dans la représentation, mais de sortir de la représentation et de me servir de mon existence ou de mes souvenirs, non pas comme d'une occasion de me faire une statue sympa, mais au contraire comme d'une matière première pour dire quelque chose d'universel.
C'est fou parce que vous me faites mes transitions et j'allais vous parler ensuite de l'image justement et de la notoriété et du vedettariat. Moi, je me suis toujours dit, Raphaël, c'est un philosophe comme ça qui, bon, bah, ça lui sert aussi la notoriété, ça peut aider à véhiculer des idées, etc. Mais en fait, vous êtes pas, ça vous plaît bien plutôt. Hein, je vous cite, les gens qui se plaignent d'être un peu célèbres ne méritent pas la grâce qui leur est faite, ni parfois la chance qu'ils ont. Quand elle n'est pas excessive, la notoriété ne contient à peu près que des avantages. Mais vous, ça vous a valu plein de malheurs, cette notoriété. Vous avez,
oui,
vous en parlez dans le livre, donc
bien
on
sûr,
peut
bien
dire,
sûr,
mais votre ex-femme
manière.
A écrit un livre qui raconte plus ou moins votre vie et la sienne. Enfin, en tout cas, elle le présentait comme ça. Et ça a été très, très dur pour vous, parce que vous étiez connu.
Ah bah, c'était épouvantable. Non pas parce que j'étais connu, mais parce que j'étais identifié au personnage qu'elle décrivait dans le livre. Et donc, à cet égard, j'étais prisonnier de l'image. Si vous voulez, j'étais prisonnier de l'image qu'on avait voulu donner de moi et avec laquelle j'ai dû vivre. Il y a deux choses, en fait, dans l'histoire. Il y a d'abord la célébrité, la notoriété, dont je dis que quand elle est absolue, elle est très dangereuse parce qu'on redoute qu'elle s'estompe. Quand elle est nulle, elle est dangereuse aussi parce qu'on a peur de ne jamais apparaître. Mais quand on est un peu connu, c'est-à-dire quand on est dans cette zone grise de la notoriété où les gens vous croisent et vous disent « Est-ce que c'est lui ? Je te dis que c'est lui. » Bref, on n'est pas trop sûr. Et dans le doute, sont sympas avec vous, alors c'est merveilleux. La zone grise de la notoriété où je me trouve est un bonheur absolu. Le côté « est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ?» Dans le doute, je serais sympa, je trouve ça formidable. Je vais pas m'en plaindre et les gens qui s'en plaignent sont des malotrus. Ce qui est vrai, c'est que, évidemment, quand vous êtes un peu public et que soudain quelqu'un s'empare de votre existence pour en donner une version plausible et que vous savez fausse, bien, vous devez vivre avec ça. Moi, j'ai dû vivre pendant 15 ans avec des crimes que je n'avais pas commis, mais que des gens qui ne me connaissaient pas me racontaient ou me reprochaient. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, la tentation de délivrer son propre témoignage, de raconter sa vie, est aussi là comme une opération de justification. Oui, c'est vrai.
Un mot sur la forme. Il y a un rythme dans ce livre. Ce sont des chapitres courts. C'est comme Rocky. Hein. Ça se lit tac, 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 ouais. Tac, tac, tac. Vous l'avez écrit vite ou alors vous avez travaillé longuement et tout
mois.
Doucement
je
pour que
ce soit rapide.
Je l'ai
écrit en 3 mois sans même savoir où j'allais quand je l'écrivais. Tout ce que je savais, la seule règle, j'avais 2 règles en l'écrivant. La première, c'était de ne jamais mentir. Non pas parce que la vérité serait moralement meilleure que le mensonge, mais parce que quand on ment pas, comme dit Gerfagnon, on peut dire n'importe quoi. Et la deuxième, c'était, donc première règle, ne jamais mentir à aucun moment, c'est être aussi sincère que possible, autant que possible, parce que le romanesque, le roman est au bout de la sincérité, à mon sens en tout cas, et La deuxième, c'était de ne pas me poser la question des effets du livre au moment où je l'écrivais. Mmh. Sans quoi vous châterez la possibilité de l'écrire.
Allez, on fait une pause. It ain't over till it's over. C'est pas fini. Donc c'est pas fini. C'est
bien.
Une citation de Rocky aussi. Le livre culte, c'est tout de suite. Nous lirons la première page du chef-d'œuvre de Marcel Proust. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La voix est libre, le retour, il est l'heure du livre culte. En l'espèce, on pourrait dire le livre saint. Cette semaine, nous lisons la première page du chef-d'œuvre de Proust, À la recherche du temps perdu. Je ne vais pas vous faire l'article. C'est le grand roman, 7 tomes, de Du côté de chez Swann jusqu'au temps retrouvé. C'est Marcel qui raconte, mais évidemment, il ne s'agit pas que de lui. Les souvenirs et les observations du narrateur nous ramènent aux nôtres. D'ailleurs, la plupart de ceux qui entament l'ascension de la montagne proustienne finissent par dire « mais ça a été écrit pour moi, ça !» Et puis, il y a cette galerie de personnages, il y en a des dizaines, il faut presque prendre des notes pour s'y retrouver. Ils constituent tous une comédie humaine où tout se mêle, l'amour, la jalousie, les différences sociales, la vie. C'est une œuvre unique, voici la première page et sa première phrase célébrissime, lue par le comédien Philippe Dussault.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible. Comme une chose vraiment obscure.
La voix est libre. Nicolas Caro.
C'était la première page d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, lue par le très proustien Philippe Dussault. Raphaël Antoven, vous êtes toujours là, vous avez un drôle de lien avec ce livre. D'ailleurs, vous faisiez du playback sur la lecture, c'était assez impressionnant. Il y a du Proust aussi dans votre livre Le Temps Gagné, rien que le titre, il y a évidemment un écho. Mais dans la description aussi des mondanités, de cet univers, je ne vous demande pas évidemment si vous êtes pris pour Proust, mais enfin, vous le connaissez bien. Est-ce que vous avez pensé à lui pendant l'écriture? Est-ce que vous vous êtes demandé parfois comment Proust ferait?
Mais non. J'ai pas pensé à lui, en fait. Ce serait, il faudrait, pour que je pense à lui, que je sois à distance de lui ou qu'il soit à distance de moi. Je le vis, je le respire. C'est mon lexique, c'est la grille de lecture que je me suis donnée. Je ne connais pas de grille de lecture moins grillagée que celle-là, c'est-à-dire plus ouverte. Donc c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que j'écris. C'est comme ça que que j'écris. C'est dans le sillage de sa façon de dire que j'essaie d'écrire. En somme, il est comme l'air que je respire ou comme une façon de percevoir constante. Donc évidemment, quand j'ai affaire à des mondanités qu'il faut décrire. C'est cette petite voix-là qui se fait entendre et dans laquelle je baigne. Oui, bien sûr. Ce qui est vrai aussi, c'est que le narrateur a une grand-mère qui est née la même année que la parution du côté de chez Swann. Et qui, pour cette raison-là, se sent, et qui est une grande proustienne, qui a lu toute la recherche et qu'elle relit régulièrement chaque année ce qu'il découvre quand il est en première. Et à cet instant-là, à la recherche du temps perdu devient aussi une recherche du passé pour lui et une façon de ressusciter le passé, ce qu'il comprend ensuite en lisant un livre de sa mère.
C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler du personnage de la grand-mère qui est magnifique. Restez
et
avec
qui s'appelle
nous.
Gilberte, qui est le prénom proustien par excellence.
Restez avec nous, Raphaël, dans un instant, bouquin et guitare, nous partons chez Thomas Dutronc.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue toujours avec Raphaël Antoven. Le temps gagné, c'est le titre de son premier roman publié aux éditions de l'Observatoire. On prend un peu l'air avant d'en reparler, direction la bibliothèque de Thomas Dutronc, qui est aussi un musée de la guitare. Bonjour Thomas Dutronc.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous dans Paris, dans un petit appartement, mais en fait qui est aussi un musée de la guitare, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai, j'en ai pas mal. Je suis pas collectionneur, mais je
ah bon, bah.
J'aime beaucoup les guitares et chaque guitare à chaque fois. Déjà, il y a plein de copains à moi qui avaient besoin d'argent, qui m'ont dit tu veux pas m'acheter ma guitare. J'ai dit bon, ok. Mais ouais, les guitares sont tellement différentes d'une guitare à l'autre. Dans les guitares nylon, t'as les manouches, les brésiliennes, les classiques, les espagnols. Après, t'as les guitares folk. Après, t'as les guitares.
Mais non, mais juste pour que les auditeurs comprennent, il n'y a pas trois guitares en rentrant. Là, on est dans le salon. Sur chaque canapé, il y a une guitare allongée, posée, des guitares plutôt manouches. Il y a une basse acoustique au fond, un ukulélé sur un autre fauteuil. Ouais. Au milieu, à côté d'un ampli, il y a une Gibson Custom demi-caisse rouge, un peu celle de Marty McFly dans Retour à le futur, quand il fait Johnny B. Goode. Et alors, jusque-là, bon, ça va, il y en a 5-6. Bon, bah voilà, il est chanteur, musicien, ok. Mais on se retourne et il y a un râtelier à guitare. Avec quoi ? 12 guitares ?
Voilà, moi je l'appelle le dressing à guitare.
Mais c'est des
c'est
guitares.
C'est un meuble qu'on a fait exprès, qui est un super menuisier.
Ça a l'air d'être des guitares anciennes que vous avez chinées à droite à gauche ?
Ouais.
Ou c'est des neuves ?
C'est ça, à chaque fois, il y a une histoire pour chaque guitare. Bah, tu vois, ça, je ne cherchais pas spécialement ça. Les Gibson 00, c'est des guitares des années 20. Le genre de guitare sur lesquelles jouaient Lightning Hopkins ou Robert Johnson, vraiment le vieux blues. Ça, c'est une Gretsch, mais assez particulière, tu vois, dans la forme et tout. On n'est pas du tout habitué. Je l'ai testée. Elle a un son de. Pour faire du AC/DC, quoi, un gros power rock, et en même temps, elle a un espèce de Bixby assez unique.
Bon, mais je parlerai guitare pendant des heures avec vous, mais effectivement.
Oui, on est là, on n'est pas là pour parler de guitare, parce que.
Mais il y a quand même des livres, et un qui m'attire l'œil particulièrement, c'est Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. C'est le fac-similé du manuscrit original de Notre-Dame de Paris. C'est un cadeau, c'est vous qui l'avez acheté, c'est votre livre préféré.
Comment c'est un cadeau et j'avoue que je ne l'ai jamais ouvert en fait. Mais c'est très beau, je ne savais plus que j'avais là, tu vois. Il faudrait que je me confine, j'étais confiné, je n'étais pas à Paris, j'étais à la campagne. Il faudrait que je sois confiné à Paris pour pouvoir fouiller dans mes disques et dans mes vinyles aussi. J'ai une bibliothèque, une vinylothèque, je ne sais pas comment ça s'appelle, une discothèque en fait tout simplement, qui est très fournie, je ne connais pas tout. Et c'est vrai que ce livre, c'est un cadeau magnifique. Mais il faut que alors comme je lis beaucoup au lit, je lis au lit.
Ah oui, c'est pas pratique, ça c'est très
ça,
grand.
Ça c'est pas pratique, j'ai peur de l'abîmer aussi, c'est grand et j'ai peur de l'abîmer quoi. Du coup, ouais, je l'ai pas très
bah, c'est le genre c'est de compulsé. Livre dont on est un peu le gardien aussi quoi, c'est une sorte de conservatoire.
Voilà,
quoi.
Mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis en démonstration quoi. En vitrine.
Juste à côté, il y a une autre bibliothèque, c'est une sorte d'hôtel aux jeux vidéo. Avec, il y a Mario, il y a des livres sur les jeux vidéo aussi, j'ai l'impression. Game Story, une histoire du jeu vidéo. Et puis, il y a une vieille console des années 80, de 1982, je crois, ce qui s'appelle la Vectrex, qui était la seule console avec l'écran intégré, ce qui était très rare.
Ouais, c'est vrai. Écoute, ça m'a fait rêver. 82, tu vois, j'avais 9 ans. Et bah, j'ai passé pas mal de temps dessus, ça m'a fait rêver. Et j'ai réussi à la conserver. J'ai perdu tous les jeux, par contre. Alors, heureusement, il y a un jeu, quand on l'allume, il y a un jeu intégré, c'était Astéroïd. Assez énervant, parce que très, très dur. Et le graphisme était particulier, parce que ce n'était pas des pixels, c'est une espèce de ligne. Et c'est noir et blanc, et on mettait un filtre de couleurs, parfois, qui suivait, s'il y avait un labyrinthe, qui suivait les trucs.
Ça marche encore ?
Et ouais, elle marche encore. Ouais.
Mais vous n'y jouez plus, quand même.
Non, mais c'est pour... C'est pour faire beau et ces petits trucs que j'ai de jeux vidéo, c'est parce qu'à un moment, j'ai fait quelques promos lors de mon premier album dans des émissions de jeux vidéo parce que j'y ai beaucoup joué étant jeune et ça me plaît toujours.
Tant qu'on est dans la nostalgie, là, je vois un livre sur les jouets des années 70-80, je me permets.
Ah ouais, bien sûr. Ah, attention, t'as tiré presque un Playboy de...
Oula ! Ah oui, il était bien caché.
C'est marrant, je savais pas qu'il était là. Tu vois.
Alors, de Barbie aux Transformers. C'est énorme, ça. Vous le regardez de temps en temps, c'est un cadeau aussi ?
Cadeau également, oui. Écoute, je l'ai regardé une fois, quoi. Je l'ai regardé une fois. Ouais.
Vous n'êtes pas nostalgique ?
Le bateau Playmobil. Si, mais plus des jeux vidéo. Ça, tu vois, j'ai demandé même à un ami qui a une boîte, Nemco Show, il s'appelle. Ils ont organisé notamment l'expo Retro Gaming au Grand Palais. Je suis devenu un peu copain avec eux, ils sont adorables. C'est le père et le fils. Et j'ai demandé au fils et au père, il y a quelques temps, d'essayer de me retrouver les vieilles consoles de mon enfance, l'Atari 2600, ColecoVision, Videopac, Commodore 64, ces trucs-là, parce que voilà, bon, ça dépend des prix, mais oh là là, les Goldorak, ouais, comme les ça, j'en avais un aussi. Qu'est-ce que je regrette d'avoir perdu ça ? Candy, j'avoue avoir regardé à 5-6 ans en ayant honte, en le disant à personne, parce que je sentais que c'était un truc pour filles, mais ça me plaisait.
Alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt encouragé, quoi. Y a d'autres livres dans la pièce à côté, là, dans le salon. Et je vois un gros livre, notamment de... J'ai l'impression que c'est Bukowski.
Oui.
Vous aimez Bukowski ?
Écoute, ce livre-là, tu vois, c'est pareil, je l'ai lu il y a plus de 20 ans, mais j'avais adoré, quoi. C'est un peu fort, c'est un peu... ça va loin dans le délire, dans la défonce, comme entre guillemets. Mais voilà, c'était en même temps, je me rappelle, de quelque chose de magnétique, quoi. Un esprit libre, un voyage... à Los Angeles, enfin, on a l'impression qu'il est toujours dans la même ville, mais c'est un voyage, quoi. Il se retrouve chez des gens, dans des atmosphères, et avec des histoires, abracadabrantes. Donc ça, ouais, c'est les contes et nouvelles, tu vois.
Ah oui, avant qu'on allume les micros, vous m'avez dit que vous aviez découvert Monte Cristo sur le tard.
Oui, aussi récemment. Je disais à un copain, je ne sais plus quoi lire, j'en ai marre des... C'est pas pour dire du mal des romans policiers, c'est pas roman policier, mais justement des trucs héroïques, fantasy ou science-fiction, des fois, c'est pas toujours génial. Et mon pote me dit, écoute, je suis en train de lire à mes gosses le conte de Monte Cristo, prends ça, tu vas te régaler. Effectivement, quelle régalade. On comprend, c'est l'équivalent des films à grand succès de l'époque, quoi. C'est-à-dire que là, tu commences le livre, tu ne peux pas t'arrêter.
C'est feuilleton, quoi.
C'est feuilleton, et puis c'est tellement bien écrit quand même. Il y a un français très soutenu, très riche.
Et vous avez dit que vous aimez beaucoup Zweig, Stefan Zweig.
Oui, c'est un auteur qui m'a toujours fasciné dans son style aussi, d'une lumière, d'une intelligence, d'une finesse, d'un raffinement. Je crois que c'est un des auteurs les plus extraordinaires que j'ai eu la chance de lire. Et récemment, j'en ai découvert un que je n'avais jamais lu, qui s'appelle La pitié dangereuse, que je recommande chaudement, parce que voilà, moi, j'ai lu.
Jamais lu. C'est quoi ?
Une histoire d'amour abracadabrante, impossible, avec un drame. C'est deux mecs qui se rencontrent dans un café comme ça, et l'autre lui raconte toute sa vie, mais c'est une vie... il est toujours resté parce qu'il n'a pas osé... être violent avec les autres, quoi. C'est bouleversant, mais c'est surtout le style, quoi. On est pris aussi. La finesse de chaque phrase, c'est... Je pense à ça, et voilà.
Ça vous change un livre, pas radicalement forcément, mais est-ce que vous sentez, après avoir lu un très, très bon livre, que vous avez changé de vision sur le monde, en fait, ou de vous-même, d'ailleurs.
Moi, curieusement, ce qui m'a quand même le plus changé de vision, ce qui m'a fait changer le plus de vision, finalement, c'est de la chanson. C'est Georges Brassens, en fait. Je me sentais un petit peu ado, je n'avais pas vraiment de conviction politique ou révolutionnaire comme certains copains. Je n'avais pas grand-chose à dire, j'étais plutôt éduqué dans quelque chose de rationnel avec mon esprit scientifique et tout ça.
Il y a beaucoup de livres sur Brassens d'ailleurs, on ne l'a pas dit.
Mais ouais. Et c'est vrai que ses chansons, sa manière de... sa réflexion politique, j'adore. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Quoi. Avant tout, l'humanité, la tendresse, quoi, le café du coin avec les défauts et les qualités humaines, et puis surtout pas donner de conseils, aucune prétention, quoi, hein, une espèce d'humilité hallucinante chez lui, qui avait une culture. J'entendais récemment parler de Victor Hugo, par exemple. Il disait qu'il adorait certaines choses de Victor Hugo, d'autres beaucoup moins, mais que même les choses qu'il aimait moins, du coup, il les aimait quand même parce que c'était Victor Hugo et qu'il avait écrit le reste. Et que un tel cœur, une telle... J'adore Brassens.
On vous laisse en musique et en littérature, alors. Merci beaucoup, Thomas Dutronc.
Merci.
Retour en studio, toujours avec Raphaël Antoven. Bon, alors vous, Raphaël, on connaît votre bibliothèque puisqu'on l'a visitée il y a quelques mois pour cette émission. Et pour ceux qui ont manqué l'épisode, c'est la seule bibliothèque que j'ai visitée entièrement classée de A à Z, toujours confondue. Mais il y a eu un incident pendant cette visite, Raphaël. Dans chaque bibliothèque, je trouve, et je m'en réjouis, on a eu la preuve tout à l'heure avec Thomas Dutronc, le roman de Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Je m'en réjouis parce que c'est mon livre préféré. Et quand je vous en ai parlé, vous vous êtes tendu un peu. On écoute l'extrait.
Ouais, mais en même temps, il y a des livres qu'il est essentiel, je crois, dont il est essentiel d'assumer le fait de ne pas les lire. Moi, par exemple, j'ai jamais lu Le Comte de Monte Cristo.
Non.
Oui, il paraît qu'à la fin, Dantès se venge, mais on le dit.
Mais vous l'avez.
Oui, je l'ai, mais je l'ai pas lu. Voilà. Je l'ai pas fini. Il y a comme ça des livres.
Ah, vous l'avez pas fini.
Qui résistent. Non, je l'ai pas fini. Je trouvais que tout sonnait faux dans ce livre, que non. Dantès avait un S de trop, que Mercedes avait un nom de bagnole. Enfin, ça ne m'allait pas du tout. C'est comme ça.
Dieu sait que je vous aime beaucoup, mais je vais devoir mettre fin à cette visite. Raphaël Antoven, Le Comte de Monte Cristo, c'est mon roman préféré. Je crois que tout est terminé à partir de maintenant. On rigole, mais ça m'a fait mal. Hein. Chacun lit et aime ce qu'il veut. Mais
vous l'avez pris comme une offense personnelle, je sais.
Pas du tout, mais parce que je vous aime beaucoup. Et donc, j'étais un tout petit peu déçu. C'était pas possible pour moi que vous n'aimiez pas ce livre.
Quelqu'un me dit, je déteste la recherche du temps perdu. J'ai toujours un petit temps de...
Oui, et là, en fait, j'ai compris. En lisant votre livre. Et c'est ça ce qui était incroyable. Quand j'ai lu votre livre, j'ai presque sursauté. Je me suis dit, ah mais voilà, toute la réponse est là. En fait, c'est votre beau-père. Il travaillait sur Monte Cristo pour les besoins d'un scénario et il vous a sommé de le lire, presque obligé de le lire.
Oui, résultat. Alors l'honnêteté commande de dire que le narrateur doit au beau-père quelques découvertes littéraires, oui. Notamment Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre, La parfaite lumière, très beau livre, Le monde du silence, et aussi la collection Jean de Lormeret, vous savez, des comtesses de Ségur, Michel de Lormeret.
Mais c'était des propositions, là Monte Cristo c'était une obligation.
Et alors, voilà, exactement, Le comte de Monte Cristo c'était une obligation, le bonhomme était en train de travailler sur Le comte de Monte Cristo pour les besoins d'un scénario médiocre, et pour ce faire, enfin d'un scénario. Et dans la foulée, il décrète que l'enfant dont il a une très haute idée, même s'il ne l'aime pas, doit lire absolument ce livre. Or, évidemment, sous la pression, le livre devient un pince-homme et ça lui tombe des mains. Et l'enfant n'a jamais surmonté le déplaisir de cette lecture.
Eh bien, je ne laisserai pas Monte Cristo à Isidore, certainement pas. Je vais vous le rendre, Raphaël, parce que vous ne l'avez pas fini, donc vous ne le savez pas. Mais sans le vouloir, vous avez écrit... avec le temps gagné, une variation sur le motif de Monte Cristo, c'est-à-dire l'itinéraire d'un homme qui souffre injustement, qui s'enferme, qui se libère, qui se venge et qui à la fin est apaisé. La dernière page de votre livre, je vous jure que c'est vrai, c'est spectaculairement vrai et quasiment, enfin, très très proche de la dernière page de Monte Cristo. La fin de Monte Cristo se passe au bord de la Méditerranée, en regardant la mer, comme à la fin de votre livre, et le roman se conclut sur l'apaisement, sur les mots « attendre » et « espérer », comme la douceur de la fin de votre roman, que je ne dévoile pas, et il retrouve son identité, Edmond Dantès, d'une certaine manière, comme vous. Enfin, tout y est.
Je vous donne ma parole que je n'en savais rien.
Ben oui, je sais, vous ne l'avez pas lu, vous me l'avez dit, Monte Cristo.
Incroyable.
Mais c'est incroyable, la fin est spectaculairement semblable à la vôtre.
Comme
voilà.
Ceci explique peut-être cela, pourquoi lire le livre qu'on vit.
Exactement. Dans un instant, d'autres livres, on part flâner dans les rayons des librairies. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Raphaël Antoven, auteur du Temps gagné à l'Observatoire. Vous le trouverez chez n'importe quel bon libraire. Et quand on dit bon libraire, on pense bien sûr à Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris. Je suis allé lui demander conseil. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Merci de nous recevoir une nouvelle fois à la librairie Lamartine. On est masqués, bien sûr. On fait un petit tour, vous nous donnez vos deux, trois coups de cœur là en ce moment, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est très facile en ce moment parce qu'on en a plein. Alors, très gros coup de cœur avec le premier roman de Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, aux éditions La Manufacture des Livres. C'est, voilà, c'est un indispensable, hein, il faut le savoir. 100 petites pages, un père... qui élève seul ses deux enfants, ses deux fils qui se grandissent et qui voit un jour que son fils aîné tourne mal, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Sur une histoire quand même au départ assez fine, c'est bouleversant. Je ne connais pas un lecteur qui n'ait pas adoré ce livre et qui n'ait pas pleuré toutes les larmes de son corps à la fin. Voilà, c'est un immense coup de cœur, c'est une très grosse surprise.
C'est vrai que c'est assez fou ce roman, hein. Tout le monde est à fond là-dessus.
Ah oui, je pense que ça... C'est déjà en train de se détacher de cette rentrée et c'est pour ça qu'on adore la rentrée littéraire et c'est pour ça qu'on adore ce métier parce que c'est une chose... Forcément, il y a trois mois, on ne savait pas ce que c'était en fait. Et soudain, ça tombe et tout le monde adore ce livre et c'est un élan et ça porte.
Le type est cadre chez Air France, je crois. Oui. Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit. Quoi d'autre ?
Alors, autre très gros coup de cœur avec Julia Kerninon, Liv Maria aux éditions L'Iconoclaste, qui est un magnifique et vibrant portrait de femme. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît sur une île et sa mère gère le seul bar de l'île et son père est un géant qui un jour s'est arrêté sur cette île. C'était un marin, il est tombé fou amoureux de sa mère, il s'est arrêté et ce géant adore une chose, il adore la lecture. Et c'est dans ce contexte que cette petite fille va naître, mais elle va être obligée un jour de quitter l'île et c'est là qu'elle va devenir une femme. C'est porté par une écriture lumineuse, poétique, c'est vibrant, un grand, grand coup de cœur de cette rentrée littéraire.
Donc, ça fait pour l'instant, je prends le Laurent Petit-Mangin, je prends le livre Mariage, je vais en prendre un troisième, vous avez quoi ?
Alors, un chef-d'œuvre dont personne ne parle encore en ce moment, mais à mon avis dont beaucoup de monde va parler dans très peu de temps, et c'est L'Accident de chasse de David L. Carlson et Landis Blair aux éditions Sonatine. Fabuleux, et je pèse mes mots, roman graphique qui va vous raconter l'histoire d'un gamin qui, au début du XXe siècle aux États-Unis, retrouve son père et essaye de renouer un esprit de famille ensemble. Ce père est aveugle et ce père est écrivain. Ça commence comme ça. C'est un fantastique roman initiatique, c'est un fantastique roman sur le pouvoir de la littérature. C'est éblouissant. Alors, les dessins sont magnifiques, parce que donc, je rappelle que c'est un roman graphique. L'objet est absolument réussi. Enfin, j'ai que des adjectifs extrêmement forts sur ce livre. Je ne suis pas, au départ, effectivement, un grand lecteur de romans graphiques. Et là, j'étais totalement séché par ce livre et je n'ai qu'une envie, c'est le reprendre et le relire à nouveau. Il faut absolument que les rayons littérature le mettent en pile. Il faut absolument que les rayons bande dessinée le mettent en pile, car c'est le meilleur des deux mondes.
C'est vrai que ça m'étonne de vos romans graphiques. C'est pas souvent. Donc c'est que ça doit être vraiment très très bien. C'est un grand format. Alors c'est un pavé. Hein.
C'est un pavé, en
noir et blanc. Vous nous parlez un peu du dessin quand même.
Oui, le dessin est sublime. C'est-à-dire un mélange de poésie pure et en même temps un dessin extrêmement précis et graphique en noir et blanc crayonné. C'est voilà. Alors c'est une maison Sonatine qu'on connaît, qu'on adore, une grande maison d'édition, mais qui est plus spécialisé dans le grand roman américain et le grand polar. Je pense que c'est la première fois qu'ils s'aventurent dans la bande dessinée. Et ils ont très très bien fait, car c'est un livre qui devrait logiquement marquer là encore cette fin d'année.
Et vous commencez-vous à en vendre à la librairie ?
Alors, on commence sur la préception et avec, effectivement, cet équilibre entre les deux univers, c'est-à-dire qu'on le conseille aussi bien en littérature qu'au rayon bande dessinée.
Ça a l'air lourd, quand même.
Alors, c'est un grand format, assez impressionnant, mais les éditions Sonatine ont beaucoup travaillé l'objet. C'est-à-dire que le livre est très léger. C'est la première surprise quand vous prenez ce livre, c'est qu'il est très léger. Et la reliure est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que vous pouvez ouvrir à n'importe quelle page et le livre se tient. Et ça, c'est, mine de rien, c'est un gros miracle. Parce que quand vous verrez cet ouvrage, voilà, vous y pensez pas, c'est pas du tout ce à quoi vous pensez, mais c'est effectivement un indispensable de cette fin d'année.
Non mais j'y crois pas, il y a une cliente qui nous a déjà piqué le bouquin. Bon bah bonne lecture madame.
Bonne lecture.
Merci Stanislas.
Merci, à bientôt Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Raphaël Antoven et merci à Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris. Le premier livre que vous avez lu, Raphaël, vous vous en souvenez ? Hop, j'ai déjà la réponse, c'est dans votre livre. On en parle dans un instant avec Victor Doland et son livre jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve à présent le conseil littérature jeunesse de Victor Doland. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Je vous présente Raphaël Antoven, enfin c'est un ex-collègue que
oui.
Vous avez dû croiser dans les couloirs d'Europe 1 il y a quelques
Salut
années.
Raphaël.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un roman pour ados.
Ouais.
Intitulé « Un garçon, c'est presque rien » de Lisa Balavoine.
Oui, ça commence par ces mots. Une chambre d'hôpital, blanche, mur, sol et plafond. Une vitre laisse entrevoir un parking clairsemé. Service de traumatologie, un corps dans un lit. Aucun mouvement à signaler. Une fille est assise dans une chaise métallique. Elle est jolie, mais quelque chose dans son regard inquiète. Une fille est assise et elle attend. Elle attend depuis longtemps le réveil du garçon. Ce garçon, c'est Roméo, 16 ans. Différent, bien différent des autres, différent des normaux, des comme il faut. On le sait mal en point dès le début et tout le roman en fait va nous éclairer sur l'avant, sur ce qu'il a justement mené dans cette chambre d'hôpital.
Un Roméo qui vit mal sa différence ?
Alors pas forcément, mais il ne comprend pas bien pourquoi les autres mecs sont aussi brutaux, toujours à vouloir penser avec leur sexe. Lui, il aime la musique, il traîne dans le magasin de disques de son oncle. Il joue de la basse aussi, mais tout le reste l'ennuie. Au lycée, aucun ami, chez lui, aucune discussion avec ses parents. Il réfléchit même à tout quitter, mais ça, c'était avant de rencontrer Justine, une belle brune pleine de vie qui, un jour, s'intéresse à lui parce que justement, il n'est pas comme les autres. Je m'arrête là, je vous laisse bien évidemment découvrir la suite par vous-même.
Et vous m'avez dit que c'était un roman écrit d'une manière un peu particulière.
Oui, tout le roman, ou presque, est écrit en vers libre. C'est très fluide, très accessible pour les adolescents, je dirais, à partir de 13 ans. De l'amour, forcément, à cet âge, l'amitié, tout sous le prisme d'un garçon qui doit trouver sa place dans ce monde. Roméo, un héros bien ancré dans notre époque, confronté aux injonctions, à la masculinité. Un héros qui est un garçon, et finalement, un garçon, ce n'est presque rien, mais c'est aussi presque tout quand il trouve enfin son chemin.
Et on rappelle le titre, « Un garçon, c'est presque rien » de Lisa Balavoine, c'est aux éditions Rajot. Merci Victor. Raphaël Antoven, d'habitude je demande à mon invité quel est le premier livre qu'il a lu dans sa jeunesse, mais comme j'ai lu votre roman, je sais de duquel il s'agit, c'est Le Monde du Silence.
Oui.
Sauf que ça, c'est tout premier, mais ensuite, juste après, il y a L'Histoire sans fin.
Ah oui, ça, c'est un bouleversement
complet. De Michael Ende. Alors, vous pouvez choisir lequel vous nous
L'Histoire
présentez.
L'Histoire sans fin, c'est extraordinaire, parce que vous lisez L'Histoire sans fin, vous avez 7-8 ans, hein, et vous lisez L'Histoire sans fin, et soudain, vous vous apercevez que dans L'Histoire sans fin, il y a un gamin qui est un peu plus vieux que vous, mais enfin, qui a à peu près votre âge et qui est assez malheureux aussi, et qui lui-même est en train de lire un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Donc, vous ne savez plus si L'Histoire sans fin, c'est le nom du livre que le gamin est en train de lire, ou le nom du livre que vous-même êtes en train de lire, et vous ne savez pas si vous n'êtes pas vous-même le gamin qui est en train de lire le livre, qui en plus incorpore le gamin, le dévore littéralement. Bref, ce qui est extraordinaire avec L'Histoire sans fin, c'est qu'elle comble en vous le désir de créatures merveilleuses, de dragons, de mangeurs de cailloux, etc. etc.
Ah oui, les mangeurs de cailloux.
Les mangeurs de cailloux, magnifique. Les dragons, le néant qui prend le pouvoir, la princesse à sauver. Bref, vous êtes comblé en fantaisie. Mais dans le même temps, vous êtes en permanence, le lecteur est en permanence en situation de démiurge, de créature de l'univers qu'il a sous les yeux. Et quand vous êtes enfant et que vous disposez discrètement de cette royauté dans le secret de votre lecture, c'est indépassable. C'est que ce livre-là rend amoureux des livres. La piqûre d'amour qu'il fait à son jeune lecteur, on ne guérit jamais.
Merci Raphaël Antoven.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accordé une heure de votre temps gagné. Et merci pour ce livre, donc Le Temps Gagné, aux éditions de l'Observatoire. Superbe. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.